Radio Okapi. Oh, Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Mpondé.
L'AFEC Boutembo plaide pour plus d'implication du gouvernement afin de mettre fin à la rébellion du M23. Elle invite par ailleurs la population à ne pas fuir pour éviter un désastre humanitaire. Exploitation de l'or par des coopératives assistées des experts chinois dans les sites miniers du Haut-Ouélé. La synergie de la société civile s'en inquiète. Cette exploitation détruit l'écosystème et ne contribue pas au développement de la province, dit-elle. L'invité de ce journal, c'est Bertin Kalinda Salongo, directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métier. Il nous parlera de ce secteur souvent mal perçu à Beni, Boutembo et Lubero. Bonsoir à tous. Commençons au Nord Kivu, où la Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Boutembo-Lubero, appelle le gouvernement à s'impliquer davantage pour mettre fin à la rébellion du M23 après la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis depuis 10 jours. Polycarpe Ndivito Kikwaya, président de cette structure patronale locale, l'a dit dimanche à Boutembo au ministre de l'Intérieur qui conduit depuis samedi une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région de Boutembo, Beni et Lubero. On l'écoute dans cet extrait choisi par Sadiq Aboubakar.
Le gouvernement a ses obligations, nous payons les impôts et taxes, qu'ils prennent l'argent, tout l'argent qu'il y a pour que la guerre s'arrête. Après la trêve, les dîners, on ne va plus fuir. Il ne faut pas qu'on soit obligé de fuir. Ça doit s'arrêter. Et il a dit que, heureusement que le vice-ministre de la Défense est là et tous ils sont en train de collecter toutes les idées de la société civile et des professeurs religieux et de tout le monde pour capitaliser ça et prendre des mesures qui seront efficaces pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Il dit qu'il est nécessaire, il est venu écouter et que nous pouvons compter avec Kinshasa, la guerre va s'arrêter. Il faut que Kinshasa fasse un signal de compassion. Nous sommes sinistrés. Les contrôles, oui, nous sommes d'accord avec les contrôles. Il ne faut pas que la province également envoie des taxes conventionnelles sans nous avoir consulté. Tout ça, nous avons dénoncé. Nous avons délié les langues et nous espérons que ça va s'arrêter.
Toujours au Nord Kivu, dans la ville de Beni, malgré des années de guerre et d'atrocité, malgré les déplacements fréquents des populations qui fuient l'insécurité dans leur milieu, la vie n'est certainement pas rose, mais elle est là. Grâce à la résilience des habitants, la ville de Beni sort lentement, mais sûrement de la perception selon laquelle on ne vit pas à Beni. Il semble relégué au passé, le temps où presque toutes les activités socio-économiques s'arrêtaient à 17h à cause de l'insécurité. Depuis une année, la vie et l'économie locale reprennent petit à petit leur cours normal. Boutiques, supermarchés, bars et restaurants ouvrent jusque tard dans la soirée. Mais la vigilance reste de mise. C'est ce que Sadiki Aboubakar nous raconte dans ce reportage de Jean-Tobi Okala.
Nous sommes sous le boulevard Niamou ici, la principale artère de la ville de Beni. Il est 0h. Certes, la circulation n'est pas intense, mais des quelques voitures sont perceptibles sur le boulevard, ainsi que quelques mototaxis. On y trouve même des vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, au bord de la route. Des années de violences aveugles et d'atrocités ont donné à cette ville de plus d'un million d'habitants une mauvaise réputation. Attentats perpétrés par des rebelles des ADEF, insécurité urbaine, pour beaucoup, il n'y avait plus la vie à Beni, devenu un endroit où l'on ne pouvait plus vivre. Pourtant, le dynamisme des populations et surtout leur résilience ont permis à cette ville de rester debout. À quelques mètres du rond-point Nyamusi, on trouve à 7h tardive des restos-bars et dancing-clubs ouverts. Au dancing-club Ishango par exemple, il y a de la vie. En dépit de la guerre et des tueries de masse, nous avons droit à la vie. C'est ce que dit cet homme rencontré au dancing-club.
On est en train de se distraire un peu. On est censé de vivre à part des massacres.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons dans la même province pour parler des combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux groupes armés rapportés ce lundi sur plusieurs fronts dans le territoire de Masisi. C'est notamment dans la chefferie de Bachali et dans les environs des Bweremana, en chefferie des Barundé. Une bombe est tombée dans la matinée sur Bweremana, faisant au moins 3 morts parmi les civils, selon plusieurs sources. Bernard Denyangi.
C'est entre 3h et 5h du matin que les rebelles du 1-23 ont lancé ces attaques simultanées sur les positions de l'armée congolaise et celles des groupes armés locaux dans le territoire de Masisi. Dans la chefferie de Baoundé, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues entre 5h du matin à 9h locales autour des collines Ndumba, Kioluku Kindo, Kashangamutu et surplombant l'axe Burema na Chacha. Vers 8h locales, une bombe larguée depuis cette zone de combat est tombé sur des maisons de civils à Buremana, faisant 3 morts, tous des enfants mineurs d'une même famille. Un autre enfant a été blessé. D'autres combats sont signalés dans les axes Kaira, Kirumbu, Luama et Kalongé, dans le groupement de Bachali Mokoto et Bachali Kaembe. Dans ces zones, nos sources indiquent que les rebelles auraient incendié dans la matinée des maisons de certaines personnes ciblées, notamment dans le village Butumbalongé. Des centaines d'habitants sont présentement en fuite dans cette zone, prenant la direction du groupement Bafuna vers Masisi Centre. Nos sources dans la zone condamnent ces attaques qui violent la trêve humanitaire de 2 semaines, qui est ce lundi à son 10e jour. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En Ituri, 2 acteurs politiques, Dany Onitoum et Oupar Désiré, ont été arrêtés à Mahagi, puis transférés dimanche à Kinshasa par le service de renseignement civil. L'un d'eux fut candidat malheureux à la députation nationale dans la circonscription électorale du territoire de Mahagi pour le compte du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Selon des sources de sécurité, ces personnes feraient partie d'un réseau du 1-23 qui cherche à implanter son idéologie dans la province de l'Ituri. La même source indique que des enquêtes sont en cours pour appréhender tous ceux qui sont impliqués dans la déstabilisation de l'Ituri. Direction province du Haut-Uele, la synergie de la société civile s'est dit inquiète de l'exploitation de l'or par des coopératives assistées des experts chinois et autres dans des sites miniers de cette entité. Cette exploitation, dit-elle, détruit l'écosystème et ne contribue nullement au développement de cette province. En conséquence, elle demande au gouverneur de province de suspendre ses exploitations sur toute l'étendue de la province du Haut-Uele. Jacques Nkonkole.
Cette demande est contenue dans une déclaration publiée ce week-end par toutes les associations de la société civile du Haut-Uele. Dans ce document, la synergie précise que cette exploitation tant décriée ne contribue ni au développement de la province ni à l'amélioration du vécu quotidien de la population affectée par cette exploitation. Monsieur l'abbé Georges Semende, porte-parole de la synergie de la société civile du Haut-Uele.
La synergie de la société civile de la province du Haut-Uele constate l'usage abusif des engins lourds non identifiés, lesquels détruisent les forêts, polluent les eaux, appauvrissent les sols, brisent les ponts, créent des puits non remblayés, causant des morts d'hommes, souvent par noyade. Et la statistique de production de l'or n'est pas maîtrisée.
La synergie se rend également compte que le protocole d'accord n'est pas exécuté et que les exploitants bénéficieraient de la complicité de certaines autorités à Kinshasa. Au regard de ce tableau sombre, elle demande au gouverneur de province de suspendre ses activités sur toute sa juridiction en attendant l'identification de toutes les coopératives et de leurs expatriés. Faute de quoi, des actions citoyennes de grande envergure seront entreprises, prévient-elle. Cependant, le gouverneur de province, Jean Bakomito, n'a pas encore réagi. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lubutu annonce les cas des monkeypox dans sa structure. Docteur Kaleba Kikuka Mafiston parle déjà de 7 cas suspects avec un décès d'une femme de 30 ans. Ce dernier plaide pour l'appui en médicaments, pour la bonne prise en charge des malades avant d'exhorter la population de se rendre à l'hôpital une fois qu'elle présente les signes de la fièvre, plus les éruptions cutanées pour couper la chaîne de transmission. Docteur Kaleba Kikuka Mafiston a été joint par Florence Kizalunga.
Oui, je confirme qu'il y a des cas de monkeypox chez nous à Lubutu, précisément à l'hôpital général. Chez moi ici, nous avons enregistré 7 cas suspects de monkeypox et parmi lesquels il y a eu un décès d'une dame âgée de 30 ans. Ces cas viennent de la zone de santé de Lubutu Centre, mais aussi dans les aires de santé voisines. Dans l'aire de santé qui a une forte prévalence, c'est l'aire de santé de Mundu. La structure prend en charge ces malades, mais nous avons des difficultés par rapport à l'approvisionnement des médicaments. Les malades sont traités par les ordonnances externes. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide, surtout par l'appui des médicaments et les services accrédités du ministère qui est l'INRB, de venir nous aider dans les diagnostics des cas. Parce que la réalité du milieu est que quand on a les cas de mankiports à l'hôpital, ça veut dire dans la communauté, il y en a beaucoup parce que la majorité vivent avec ces maladies à la maison.
Au Nord Kivu, toutes les 34 zones de santé de la province sont en rupture des médicaments contre la tuberculose depuis plus de 3 semaines maintenant. Le coordonnateur provincial du programme Lèpre et Tuberculose, qui tire la sonnette d'alarme, affirme que la situation est alarmante dans les milieux carcéraux sur l'ensemble de la province. Il plaide auprès des autorités tant au niveau provincial que national en faveur d'un appui en médicaments pour une bonne prise en charge des malades dépistés et éviter la résistance de cette pathologie chez certains patients. Le docteur Bia Kizikiko Robert explique au micro de Gabriel Ominia.
C'est un souci très sérieux. À l'heure où je vous parle, il y a des malades qui ont été dépistés depuis le 3 juin. Ils n'ont pas un traitement. Pourquoi? Parce qu'en province du Nord Kivu, nous sommes à reptile de RHZIE, la molécule phare pour débuter un traitement de la tuberculose, mais nous sommes à réussir presque partout. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les autorités, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, de s'impliquer pour que on trouve une solution. C'est vrai, on était dans un projet qui est entré, qui vient de se terminer, NMF3, qui avait un respirateur principal Cordage, qui est en train de terminer sa mission, mais en terminant sa mission, il ne devrait pas laisser sans médicaments, on devrait avoir des médicaments. Maintenant, nous n'avons pas de médicaments par rapport à la prise en charge, raison pour laquelle on est en train de demander que le niveau national aussi puisse s'impliquer pour qu'on trouve les médicaments. Au total, nous avons 196 cas confirmés de la tuberculose sensible dans la prison de Munzenze. Pour la prison de Beni, nous sommes à 65 cas positifs et dans la prison aussi de Butembo, 21 cas de la tuberculose.
Nous n'avons encore, malgré tous nos efforts, aucune réaction de l'autorité provinciale sur la question. La crise au sein du centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO atteint son 5e jour ce lundi. Les travailleurs ont paralysé toutes les activités depuis mercredi passé suite au conflit qui les oppose au directeur administratif financier à qui il reproche le détournement de plus de 6 000 $ et la création d'une milice. Jean Kassami revient sur le climat qui a régné ce matin au CRSN l'UIRO au nord du territoire de Cabaret.
Le représentant des travailleurs, Félix Maroy, confirme que les activités restent paralysées jusqu'à ce que le ministère de tutelle se prononce sur la crise actuelle. Le syndicaliste principal revient sur les fautes que les travailleurs reproche au DAF du CRSN l'UIRO.
Nous reprochons à notre DAF le détournement de plus de 6 000 $, l'acharnement sur les agents, la destruction méchante des infrastructures. Il est également colliniste, corrompu, il divise également les agents. Notre DAF a recruté des gangs que nous analysons comme une milice.
Le DAF, lui, minimise l'ampleur de la grogne des agents qu'il assimile à un simple effet de jalousie. Pour le Paul Ngabo.
Le CRSN est calme, il n'y a pas de problème et le travail évolue bien. Je reste juste serein. C'est le gouvernement qui m'a mis en place. Je dois justifier par ma compétence et toutes mes qualités. Ces conflits sont liés à la haine, à la jalousie, à la calomnie. Juste pour me déstabiliser et salir ma personnalité, je ne t'ai pas lâché.
La réponse aux multiples correspondances adressées au ministère des tutelles par le parti en conflit tranchera qui a tort et qui a raison. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pour une collectivité qui s'est dit verte et pour une justice climatique, l'ONG Initiative pour le développement local, IDEL, demande à l'État congolais de réduire l'exploitation pétrolière et gazière à Mwanda en mettant fin au forage de nouveaux puits. Cette recommandation a été formulée à l'issue d'un atelier d'échange sur la justice climatique avec les membres des organisations de la société civile et les communautés locales venues des villages où les entreprises pétrolières exploitent et explorent du pétrole. Serge Ngimbi, coordonnateur de cette structure environnementale, a indiqué qu'il y a cela 43 ans depuis que les entreprises pétrolières exploitent en territoire de Moanda. Malheureusement, les communautés locales perdent plus qu'elles ne bénéficient.
Actualité internationale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit ce lundi pour la première fois favorable à ce que la Russie participe à un prochain sommet pour la paix organisé par Kiev après des premières discussions mi-juin en Suisse sans Moscou. Je pense que des représentants russes devraient participer à ce deuxième sommet, a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev, espérant qu'un plan en vue d'une telle rencontre puisse être prêt en novembre. Un suspect a été arrêté dans l'enquête sur les corps des femmes retrouvées dans une décharge de quarry à Mukuru, un bidonville de la banlieue de Nairobi au Kenya, a annoncé la police ce lundi. Il s'agit d'un homme de 33 ans qui a confessé le meurtre entre 2022 et le 11 juillet dernier de 42 femmes, dont la sienne, ont déclaré les forces de l'ordre. C'est à la suite des transactions mobile money d'une des victimes qu'il a été arrêté, ont-elles précisé.
L'invité.
Kalenda Salongo est notre invité. Il est le directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métiers. Bertin Kalenda Salongo parle de l'état de ce secteur, souvent mal perçu par certaines personnes, mais aussi de son importance dans une région comme celle de Beni, Boutembo et Lubero. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Berthe Kalenda Salongo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Qu'attend-on par formation professionnelle et quelle est son importance?
La formation professionnelle est juste un secteur qui se focalise sur l'apprentissage de métier. Et cet apprentissage de métier revêt un caractère important dans le secteur de la vie nationale parce qu'il nous permet à la fois de former des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi.
Oui, alors, quel état des lieux faites-vous de ces secteurs dans la région de Beni, Boutembo et Lubero?
Et la formation professionnelle dans la région de Beni, Lubero et Boutembo a commencé effectivement avec beaucoup de difficultés, mais nous sommes en train de nous y mettre pour essayer de mettre chaque chose à sa place. La première grande mission était de vouloir installer d'abord le service en question. Nous avons connu assez de difficultés avec d'autres services frères au sein de l'administration publique parce que, comme vous le savez, la formation professionnelle était organisée d'une manière disparate. Certains des centres dépendaient, je ne sais pas, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture et des Arts. Mais avec la réforme initiée par la plus haute autorité du pays, il a plié à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vrai hommage, de pouvoir créer un ministère à part entière pour le secteur de la formation professionnelle. Et pour le moment, au niveau de la région de Boutembo, Beni, Lubero, nous pouvons nous frotter les mains parce qu'au moins nous avons déjà des structures que nous avons déjà créées qui sont capables d'assurer une bonne formation à notre jeunesse. Donc nous avons déjà des centres de formation professionnelle qui sont agréés par l'État congolais. Et bientôt, nous sommes en processus maintenant parce que avec les établissements publics, il faudra que les formateurs, les directeurs de ces centres soient pris en charge par le Trésor public. Et pour votre information, nous dirons que le premier lot de centres de formation professionnelle est arrivé à Boutembo, déjà mécanisé par l'État congolais. Il ne reste maintenant que l'argent soit disponible pour que ces gens puissent bénéficier déjà de l'argent. Donc sur le plan organisationnel, nous espérons que dans les jours qui suivent, la formation professionnelle va se vêtir de sa plus belle robe.
Plusieurs personnes, en majorité des jeunes, désœuvrés bénéficient souvent de formations professionnelles dans plusieurs domaines de la région. Quel suivi faites-vous de ces formations et de personnes formées?
Pour ceux-là qui sont formés dans les différents centres de formation professionnelle, ils reçoivent vraiment une formation de qualité et au terme de leur formation, ils sont toujours certifiés. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé pour devoir créer un guichet unique de formation professionnelle. Et nous essayons, tant bien que mal, de mettre en place, comme nous avons un service qui s'occupe de la réinsertion, ce service essaie de suivre de plus près ces jeunes gens qui ont été formés.
Peut-être pour finir, aujourd'hui, quelle valeur donnez-vous à un certificat de fin de formation professionnelle? On sait que pour plusieurs parents et même certains jeunes, la formation professionnelle passe souvent pour de personnes qui n'ont pas fait de longues études, pour devenir ingénieur, journaliste, médecin, etc. Pourquoi la formation professionnelle a-t-elle une mauvaise presse auprès de la population?
Effectivement, si la formation professionnelle a une mauvaise interprétation, pourquoi? Parce que vous savez, le système éducatif congolais a mis un accent particulier sur ce que nous appelons l'enseignement théorique, l'enseignement général pour former des gradués, des licenciés, des docteurs, des médecins, ainsi de suite. Mais le fort malheureusement est de constater que, au terme de leur cursus universitaire, ils sont toujours voués au chômage. Contrairement à la formation professionnelle que nous attendons de ceux-là que nous venons de former à devenir immédiatement des créateurs d'emplois. Et en plus de cela, le certificat dont vous faites allusion, madame, le certificat offert par le ministère de la formation professionnelle, je vous dirais que ce certificat est devenu internationalisé. Même si vous allez à l'extérieur, l'UNESCO s'est engagé à vouloir valoriser ce même certificat au même titre que nos diplômes d'État que nous délivrons en République démocratique du Congo.
Bertin Kalinda Salongo, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Ce journal prend fin. Il a été coordonné par Jude Bilanda et Richard Junior Kamunga sous la supervision de Pele Kipela Mondo et mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis.